La première fois que je suis entrée sur une scène, j'ai eu tellement peur.
Judith Magre.
Que le régisseur m'a poussée, j'ai fait un vol plané, j'ai perdu mon chapeau, ma petite ombrelle, etc. Les gens ont ri en pensant que c'était dans la mise en scène. Et je me suis dit, bon, ben voilà, t'es là, t'y restes. Et puis, d'abord, j'avais pas envie d'être actrice. Enfin, j'en avais peut-être envie, mais je me disais que c'était vraiment un métier pas fait pour moi.
Ça peut pas faire de mal.
Ça me paraissait un métier fait pour des blondes très belles. Très... Et moi, je lisais la petite illustration dans le grenier de mes parents. Et je crois que ce qui m'aurait donné plutôt envie, c'était de mettre rouge à lèvres jusqu'au trou de nez. Je me suis donné la permission de mettre du rouge et d'avoir les robes qui me plaisaient.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Oh, que j'ai eu froid. Les petits cœurs grelottent. Il y avait des pots de géranium séchés. Toujours je les verrai séchés par la gelée. Un peignoir sur un balcon, un long, long balcon noirci par les pluies pendant une nuit d'hiver. Je ne ferai pas de phrases, mais la nuit fut particulièrement longue, elle aussi. Non, je n'étais pas prisonnière sur le balcon, mais je voulais mourir. Fille douce et chevelée, près des herbes amères séchées dans leur caisse par la gelée. Ma vie elle-même déjà était échevelée. Oh, comme j'ai souffert, malgré les frictions d'autres colonnes. Je devais être assez belle à voir, penchant sur la rue, mon corps parfumé. Je paraissais attendre que poussent mes cheveux sans retenue et assez pour qu'un inconnu, le moindre passant, y grimpe. Roméo, un sauveteur, quelqu'un. Je voulais devenir tuberculeuse, etc. J'étais précipitée dans les étoiles mises à l'envers. Voilà déjà 3 ans en plus l'année dernière. Que j'ai souffert, bien que la mort, ça ne m'intéresse pas. Persécutée, comme j'ai eu froid. Grézy, où est mon chien chéri, mon chien préféré, où est-il? La vie passe, tout augmente, sauf ma jeunesse. Vivre. Partir. Grézy, mais enfin, où est mon chien?
Cette tirade du balcon, digne des plus grandes tragicomédies, est l'œuvre d'un dramaturge qui a connu son heure de gloire dans les années 1980. Il s'agit de Jean Vautier. Cette réplique est tirée de l'une de ses plus belles pièces, Les Prodiges, écrite en 1957, qui décrit avec lyrisme et cruauté l'agonie d'un couple. Ce personnage, Gilly, est une femme au tempérament fantasque qui s'apprête à quitter son compagnon. Elle a été magnifiquement interprétée au théâtre sous la direction de Claude Régis par une grande dame, une jeune mademoiselle, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, Judith Magre. Bonsoir Judith.
Bonsoir Guillaume.
Merci d'être avec nous ce soir. Comme Gilly, vous êtes une femme passionnée, joueuse et amoureuse. Vous croquez la vie comme vos personnages, à coups de rouge à lèvres écarlate pour faire briller l'instant présent et donner des couleurs à l'existence. Vos rôles, vous les choisissez comme vos lectures à coups de cœur. Merci de nous faire partager quelques-uns des grands textes qui vous accompagnent depuis toujours dans votre bibliothèque idéale. Découvrons-la, cette bibliothèque. Restons en compagnie de Jean Vautier et de ses prodiges. Dirigé donc, comme je le disais, par Claude Régis en 1971, vous avez été récompensé par la critique pour votre interprétation de cette Gilly, cette femme fatale qui court après le bonheur et la vie facile. Mais les deux sont-ils compatibles ? N'y a-t-il pas un prix fort à payer, trop fort? Retrouvant Gilly face à son amant, Marc, un homme à la fois rêveur et impulsif, le couple se déchire entre espoir et désespoir, regret et règlement de compte.
Quel idiot! Oui, je l'ai aimé. J'ai aimé cet homme, sans rien mettre de côté, comme une enfant peut le faire, sans paresse aucune. La pleine passion. Il m'acheta un maillot. Un maillot. Ce maillot.
Écoute-moi. Et comme tu as changé, est-ce toi? Il m'arrive de te suivre dans la rue, à te voir de dos, cet amphore. Certes, je sais bien que tu as déjà un peu de cellulite, mais nous sommes peu à le savoir. Et il paraît que l'homme doit trouver en toi tout ce dont il a besoin. Mais, parvenu à ta hauteur, que voyons-nous? Ton visage. Désormais, il dit non. Il a le modelé des surfaces de pierre élevées dans de vastes régions nues pour résister au vent et à la guerre. c'est devenu non. Tu devrais rester dans mes bras, échanger. Tu devrais regarder le soleil, lui que tu aimes tant, le regarder en clignant tes cils fardés qui te protégeront, et regarder les plantes, et les heures du jour, et l'état du ciel serein ou nuageux. Regarde une plaine remplie d'oliviers et remarque bien que chaque olivier argenté sous le vent dit oui. Il dit oui. Tu devrais caresser les chiens, de vrais chiens et non pas ces vicieuses peluches, et tu verrais comme les chiens disent oui. Oh, les consentements de la vie sont encore si nombreux qu'ils transformeraient ton sourire, si tu le voulais.
L'autre jour, en descendant du grenier, je tenais une loque de laine verdâtre. Je tenais ce avec quoi tout a commencé quand j'ai eu la bêtise de... Enfin, etc. Oui, j'ai aimé Marc. Il m'acheta ce maillot. Nous étions dans la salle à manger, et puis après nous avons grimpé sur les rochers. Nous sommes descendus dans une crique. Il s'est baigné en me gardant dans ses bras. Nous passions nos journées dans les rochers sous un blanc et aveuglant soleil. Et toujours nous redescendions pour qu'il se baigne. J'étais au-dessus des vagues, au bout de ses bras tendus. Il riait, son rire s'étendait très loin, loin sur le rivage. Sur le sable, il faisait une boule de ce maillot qu'il lançait fort, de toutes ses forces. Et il courait.
Mon enfant, tu avais des ailes. Réveille-toi. Nous nous étions rapprochés d'une éternité. En août, nous soulevions les branches et de là, nous regardions la mer. Je te disais que je voulais boire ton sang. Je croyais devoir m'enraciner en toi pour devenir un arbre qui déchire les nuages. Je le vois bien, ce que de plus en plus j'ai voulu ressemble à une liberté audacieuse. La première fois que je t'ai dit bonjour sur le bord de la route, je t'ai embrassé et tu m'as embrassé. Le délice de promesse, comme une fraise, était derrière tes lèvres. Et je trouvais ce fruit chaleureux et vivant, dans sa caverne la vivante sirène. Puis il y eut mes grandes pitiés pour tes hontes et tes maladies bienheureuses dont j'ai partagé les sueurs, les soins, les embrassements, des aveux et des évanouissements dans la joie.
Marc, Marc, tu le sais, je t'ai aimé pendant que tu me ravageais. Je puis le dire, j'ai connu le bonheur, ou ce qu'on croit pouvoir appeler ainsi. Peu de choses peut-être suffiraient pour que tout... Peu de choses, enfin.
Immensément plutôt. Immensément.
Oui, immensément. Souviens-toi, à Fronsac, au lit, nous avions la fenêtre ouverte. Les frondaisons se balançaient.
Mais non.
Oh, la cime des branches vivait dans le vent et tu regardais par la fenêtre. Tu t'es levé, tu m'as dit, vois-tu, il va arriver quelque chose. Et un petit nuage blanc s'avança, tout seul au-dessus des branches. Tu le suivais du doigt en criant, il fait le tour du monde. Et puis tu m'as battu, je ne sais plus pourquoi.
Il est des îles qui dérivent, notre étrave ne les rencontre plus.
Mais à mesure que je donnais ma vie, enfin, mon corps, près de moi, cette réprobation, doucement et puis sans cesse, toujours, entendre les poutres une à une, doucement tomber une à une, doucement le ravage, doucement la ruine de nos vies, et à mesure des instincts flambèrent en toi.
Il y a des moments où tu es immonde.
Oh, ne me fais pas pleurer. Immonde, qu'est-ce que c'est ?
Immonde. Immonde.
Ah ! J'avais promis de le regarder en rentrant, de le regarder en plein, vraiment. Où est-il ? Vite ! Eh ben oui, là, je te vois. Ha ! Et je te dis le mot historique.
Quoi ? Qu'est-ce que tu me dis ? Mais qu'est-ce que tu as à me regarder ?
Je te dis le mot historique.
Ce que tu devrais faire, c'est aller jouer pour moi ce petit air de piano que j'aime tant. Alors tu ne veux pas ? Que tu es sotte en plus. Un autre prodige survient dans votre vie, Judith Magre, la rencontre avec le grand poète Louis Aragon, qui vous accompagne jusqu'en URSS lors de la tournée de la pièce Ismène, coécrite avec Yanis Ritsos. Un de vos chefs-d'œuvre préférés, c'est Aurélien, son grand roman de l'amour impossible. Lorsqu'il en commence la rédaction en 1942, Aragon est menacé par les Allemands pour son engagement dans la résistance. En exil dans le sud de la France, il traverse une grave crise intime. Elsa Triolet, en effet, veut le quitter. Roman d'une génération sacrifiée, Aurélien relate cette relation manquée entre un jeune homme désenchanté, traumatisé par la Grande Guerre, et Bérénice, une jeune femme marquée par l'abandon de sa mère.
Aurélien, plus que tel ou tel homme, est avant tout une situation.
Louis Aragon.
Un homme dans une certaine situation. C'était avant tout l'ancien combattant d'une génération déterminée au lendemain de la paix en 1918, de l'armistice, l'homme qui est revenu et qui ne retrouve pas sa place dans la société dans laquelle il rentre.
Commençons par l'instant où Aurélien est saisi par le vertige de ses sentiments. Nous voici dans une loge de théâtre en compagnie de Bérénice. Il y avait en lui le plus grand désordre. Le rideau, la rampe, tout ce qui était le théâtre même ne formait plus pour lui que le paysage d'une scène où il y avait une femme, plus délicieuse avec ses bras imparfaits et charmants. La nuque ou les cheveux coupés accentuaient le sentiment qu'il avait de faire une chose défendue. Aurélien, déconcerté au possible, timide comme un collégien, se disait « c'est elle ». Et ce « c'est elle » là signifiait mille choses incroyables, que c'était elle qu'il avait toujours attendue sans le savoir. Celle à qui, pour la première fois de sa vie, il dirait « je vous aime ». Celle que j'aime. Il se répétait ces mots qui signifiaient, résumaient tout. Il tremblait. Voyons, un grand garçon comme lui. Il était encore maître de lui. Bientôt, il ne le serait plus. Il suivait la lumière sur le bras de Bérénice. L'éclairage changea. Bête comme un clair de lune. C'en était un d'ailleurs. Aurélien pouvait aussi changer l'éclairage, il le pouvait, il ne le voulait plus. Tout se précipitait. Cette femme immobile, étrangère, si voisine et si lointaine, cet être à peine vivant pour lui, il n'avait même pas pour elle un grand entraînement, le vertige était ailleurs. S'il avait envie de l'entourer de ses bras, de la serrer contre lui, ce n'était pas comme avec les autres femmes, un besoin de prendre, cette sauvagerie qui pousse à mordre, à étouffer, non. C'était comme la faim, une faim négative, un manque atroce, un désespoir. Il eut peur. Il se sentit tomber. Il sentit qu'insensiblement, inconsciemment, il avait rapproché sa chaise de celle de Bérénice. Le bras d'Aurélien posait sur le dossier de la chaise de Bérénice. Il sentit le léger parfum de foin coupé qui venait de ses cheveux. Cette ombre qu'il appelait son amour s'animait. Elle avait une respiration, un cœur, un souffle, et le souffle d'Aurélien se retenait. Son cœur battait, sa respiration s'accéléra. Doucement, il approcha sa main du bras nu de Bérénice. Tout en lui était en éveil. Il sentait chaque point de son être. Il allait toucher ce bras. Il allait oser cela. Cette audace pouvait tout détruire. Il pensa retirer sa main. Il ne la retira pas, parce qu'on ne peut pas être lâche. Dans cette loge de Paris, il reconnut ce sentiment qui lui faisait battre le cœur. Il se revit ainsi la nuit dans un petit poste en Argonne, derrière les arbres brisés. Sa paume prit le bras de Bérénice et doucement le serra. Un frémissement lui répondit. La surprise. Il sut que si l'étreinte se relâchait, tout était perdu. Le bras se dégagerait. Il fit glisser sa main comme pour une caresse et emprisonna le coude. Il attendit, le frisson s'était calmé, le bras demeurait immobile, d'une immobilité surprenante. Les cheveux de Bérénice touchaient, effleuraient le visage d'Aurélien. Ah, dans cette minute, elle était à lui, comme un oiseau fasciné. Tout pouvait rompre le prodige. Le prodige durait.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin, peu qu'on retrouve au soir des armées incertaines. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux.
Mon bel amour, mon cher amour,
ma déchirure, je te porte dans moi, comme un oiseau blessé, et cela sans savoir, nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés, et qui pour tes grands yeux, tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux.
Restons en compagnie d'Aragon et de son roman Aurélien. Quelques pages plus loin, Bérénice connaît le même trouble. Mariée à un pharmacien de province, elle espère fuir les tourments de la passion. La voici seule dans sa chambre. Et je vous cède la parole, chère Judith.
L'image d'Aurélien s'est emparée d'elle. Son visage, son allure, son corps, où qu'elle tourne ses yeux vers l'ombre, c'est lui qu'elle retrouve et qui l'entoure et la poursuit. Aurélien, Aurélien, ah, c'est insupportable. Comment ne plus le voir? Comment renoncer? Elle avait goûté à cet alcool profond et sombre. Elle en gardait l'ivresse. Elle ne pouvait se faire à l'idée de renoncer à ce vertige, même si ce n'était qu'un vertige. Elle s'était allongée sur son lit. Il n'y avait que la lumière de la lampe basse à côté du lit. Toute l'ombre était pleine d'Aurélien. Toute l'ombre se resserrait sur elle. Aurélien, Aurélien. C'était la faute de l'ombre. Il fallait chasser l'ombre pour chasser Aurélien. Elle se leva, marcha vers la table à écrire et alluma encore la lampe dont les rayons tombèrent sur le buvard ouvert où il y avait une lettre pour son mari, commencée et interrompue. Toute la lumière. Il n'y avait plus de spectre. Il n'y avait plus qu'Aurélien. Elle vit sur une chaise la robe qu'elle avait retirée tantôt, son chapeau et ses gants. Elle mit de l'ordre. Les gestes machinaux de l'ordre ressemblent à ceux du départ, aux bagages préparés. Elle quittait Paris. Et avec Paris, cet enivrement, cette chaleur. Elle quittait Paris. À l'idée d'abandonner Aurélien, elle n'avait trouvé que sa fureur de se faire mal, de s'arracher le cœur. Mais elle quittait Paris et elle sentit à ses yeux des larmes. Elle revoyait ses rues, ses quais, ses jardins. Elle retrouvait Montrouge et Passy, les Batignolles, le quartier latin. Fini, les Tuileries, comme une joue caressée. Paris la prenait en traître et se confondait doucement avec celui qu'elle fuyait. Elle essuya ses larmes, se vit dans la glace, ses cheveux en désordre. Elle prit son peigne et se coiffa. Jusqu'à quel point l'amour d'Aurélien était-elle pure de tout alliage? Est-ce vraiment cette chose violente, absolue, irrémédiable qu'elle avait crue? N'était-ce pas Paris? Ses illusions, ses lueurs, sa vie changeante, ce pullulement d'inconnus et de célébrités, les grands hommes et les passants, les toilettes, les étalages, les concerts, le théâtre et les quartiers vides où l'on ne rencontre que le vent. N'était-ce pas le regret de tout cela qui l'a persuadée qu'elle aimait Aurélien? J'ai bien vécu jusqu'à maintenant sans cela. Qu'y a-t-il de changé? On se dit ça sur un fauteuil tranquille. On se le dit parce qu'on a peur. Bérénice avait peur d'elle-même, plus que d'Aurélien. Peur de la blessure terrible d'une désillusion. Elle savait ce qu'est le puits d'une désillusion et ce que c'était d'en sortir. Et comment il était possible qu'on n'en sortît pas. Elle était toujours devant la glace et elle se peignait interminablement. Au dehors, le vent soufflait. Le vent disait « Aurélien, Aurélien ». Et si tout cela n'était qu'une illusion de loisir, de leur loisir à tous deux et de Paris? De Paris, si bien peigné, si propre, où rien n'accrochait l'oisiveté de leurs deux cœurs, le vide immense de leurs cœurs. Si tout cela n'était qu'une illusion de plus dans cette vie qui se poursuit, qui se prolonge, où l'enfance s'est abîmée, où la jeunesse lentement se brûle et qui ne laissera plus tard que les traces d'amertume qui font les rides du cœur et du visage, les rides qu'elle imagine lentement naissante au fond du miroir. Aurélien, Aurélien.
Comme Bérénice, vous aimez Paris et ses enivrements. Donnons à présent la parole à l'un de vos amis les plus chers, un journaliste célèbre pour ses chroniques mondaines et ses traits d'esprit, un grand ami de mes parents aussi, que je salue, Pierre Bénichoux. Dans son livre « Les absents levaient le doigt », il rend hommage aux personnalités qui ont marqué la vie parisienne depuis les années 50. Sous la forme d'un abécédaire, l'auteur rassemble les articles qu'il a consacrés aux grands de ce monde au moment de leur disparition.
Bonjour, la mort de Louis Aragon la nuit dernière à Paris, chez lui, rue de Varennes. Il avait 85 ans, l'écrivain, le poète, le militant du Parti communiste français depuis 1927. De nombreuses personnalités se sont rendues au domicile de Louis Aragon, rue de Varennes à Paris. Ainsi, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français. Georges Marchais, bouleversé, au micro de Philippe Chaffangeau.
Aragon a été pour nous un conseil précieux. C'est l'un des meilleurs des nôtres, je l'ai dit, au Parti communiste. Ce parti dont il disait, dont je démissionne chaque soir et auquel je réadhère chaque matin.
Le recueil s'ouvre justement sur le décès de Louis Aragon. Nous sommes en 1982. Pierre Bénichoux signe une plainte pour la mort du roi Louis, où il prend la défense du grand écrivain engagé, méprisé par ses camarades du PC, à l'heure des désillusions. Et je vous donne la parole, Judith Magre.
Ah, ce mélange d'admiration, de connivence et d'excitation, ce fou rire intérieur qui étreint parfois les fous de musique et que nous, adolescents captifs d'Aragon, ressentions à chaque poème lu, entendu, remémoré. Comme j'ai dû tomber de haut, n'est-ce pas? Il est, vous le savez bien, truqueur, stalinien, amoureux de rien d'autre que de lui-même, lâche surtout. J'entends cela depuis si longtemps. Au début, seule la droite l'insultait, c'était dans l'ordre des choses. Puis sont arrivés les dissidents du parti. Eux, ils avaient compris à temps. Comment? Aragon ne nous a pas encore rejoints? Mais qu'est-ce qu'il attend? Après la Hongrie, après la Tchécoslovaquie, la Pologne? C'est une honte. Eh oui, une honte. Mille hontes peut-être, mais qu'il préfère garder pour lui. Il ne croit pas au repentir. Il n'est pas doué pour la rédemption. Et ma douleur, comme un pied nu, trouble l'eau verte du silence. Il sait, comme vous, qu'il y a des cadavres dans le placard. Il le sait mieux que personne. À certains d'entre vous, c'est lui qui l'a dit. Il vous a même montré la sortie de secours. Et il est resté. Lui, c'est trop tard, il est damné. Je reste roi de mes douleurs. Comme ça vous fait plaisir qu'il soit nu, le roi Louis. Il vous impressionnait tellement. Puis, grotesque, accoutré comme un minet, vise un peu cette folle. Et son ombre gigantesque tremble sur les murs des bistrots malfamés. Vous écarquillez les yeux pour le regarder par la vitre. Vous n'osez pas entrer, bien sûr, des fois qu'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas. N'ai-je pas tout perdu, le Pont Neuf et le Louvre? Et ce n'est pas assez pour vous venger de moi. Surtout pas de pitié pour ce vieillard masochiste qui prend encore la pose pour se vautrer dans sa jeunesse. Deux flics en voiture, ordre de Pompidou à la mort d'Elsa, croisent inlassablement devant le tabac de la rue du Four pour, comme on dit, parer à toute éventualité. Double escorte pour l'homme le plus seul de France. Et c'est ce type-là qui se prend pour Victor Hugo? Oui, et le plus fort, c'est qu'il a été à un cheveu d'avoir raison. Vous le savez bien, vous la reconnaissiez entre toutes, cette voix qui n'est jamais tant elle-même que lorsqu'elle imite les autres. Vous ne la supportez plus, cette musique inouïe, grandes orgues et pianola, vous la détestez parce que c'est la vôtre. Aux bisous des baisers, les ans passent trop vite. Et vite, et vite, et vite, les souvenirs brisés. Mais cette nuit, Louis Aragon va mourir. Fini la chanson, fin de siècle. Dès demain, vous répéterez que cet affranchi était un respectueux, ce révolutionnaire un anti, ce charmeur de serpents, un avaleur de couleuvres. Mon roi Louis. Ah, vieille canaille, Ils vont gifler un mort.
Et après, même ça, c'est toi qui leur as appris.
Parmi ces personnalités hors normes qui font la réputation du tout Paris, vous avez une amitié lointaine, pas vécue, mais ressentie, pour une artiste peintre au destin bohème. Elle est américaine, née en 1925. En 1953, elle quitte New York pour épouser la vie d'artiste à Paris. Elle côtoie Francis Bacon, Andy Warhol, fréquente Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld. Mais elle souffre de ne pouvoir affirmer son talent de peintre. Vous lui avez rendu hommage, Judith Magre, en incarnant au théâtre son tempérament exceptionnel. Il s'agit de Shirley Goldfarb, un rôle pour lequel vous avez reçu en l'an 2000 le Molière de la meilleure comédienne. Découvrons cette voix singulière à travers son journal intime qu'elle a tenu entre 1971 et 1980, année où elle succombe à un cancer. Retrouvons-la sur son lieu de prédilection, attablée à la terrasse du Flore. Nous lirons à deux voix comme un dialogue entre Shirley et l'artiste reconnu qu'elle aurait aimé être.
2 août 1971. Je me suis trempée et bronzée à la piscine de Ligny dans mon bikini violet. Je suis maintenant au Flore et Paul, le garçon qui me fait chier, me dit qu'il pensait que j'étais morte et j'ai répondu que j'aurais aimé qu'il le soit. Pourquoi les imbéciles, et le monde en est plein, ne peuvent-ils pas me foutre la paix? Si au moins c'était des génies qui venaient me déranger, ce serait le paradis. Chaque jour, je me réveille et c'est comme si je naissais pour la première fois. Non, je ne suis pas comme les autres. Je suis terriblement et irrévocablement unique.
11 août, prière du café de Flore. Je vous implore, tous autant que vous êtes, de ne pas me parler. De ne pas toucher mon chien. Laissez-moi simplement être. Permettez à ma solitude de suivre sa course solitaire.
27 février 1972. Je suis d'accord avec Brigitte Bardot. Les hommes sont des brutes et nous pourrions très bien nous en passer. Nous avons appris l'art subtil de la masturbation. Le pouvoir pour les hommes, c'est d'ajouter des centimètres à leur pénis et du poids à leurs couilles. Pourtant, j'aime Grégory. Baiser confortable, c'est ça ma devise.
11 octobre. Pourquoi est-ce que je ne peins pas tous les jours, au moins pendant 8 heures? Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de discipline pour être seul aussi longtemps. J'ai besoin des gens. J'ai besoin d'être vu au milieu d'eux, remarqué. Voilà ce dont j'ai besoin, autant que de l'acte de création. Francis Bacon a été adorable. Nous avons parlé de Monet, d'amis communs, et nous avons médit sur tout en général. Bacon a un visage comme un sexe qui rit.
26 novembre. Qu'est-ce que ça peut faire? Qui je suis? Ce que j'ai fait? Qui j'ai baisé? Je suis ce que je suis. Qu'ai-je accompli? Très peu. But it's mine.
14 février 1974. Elle était assise au café et attendait que sa vie commence. Jusqu'à présent, ça n'arrivait pas. Il était tard et il faisait noir. Elle avait un peu peur du noir.
13 juillet. Gertrude Stein disait « Cela prend beaucoup de temps d'être un génie. Vous passez tellement de temps assis à ne rien faire. »
23 octobre. J'aime le fait que Roland Barthes soit assis au même café que moi et me sourit de temps en temps.
9 novembre. Le vacarme des assiettes au café de Flore où je suis traitée comme une pute.
5 janvier 1975. Je regarde autour de moi et je vois le visage douloureux des gens déterminés à survivre à tout prix. C'est finalement ce que nous avons tous en commun. Nous voulons survivre.
10 février 1975. La vie peut être si belle si vous n'attendez personne.
27 février. J'ai rencontré les bonnes personnes de la mauvaise manière. Je suis connu pour ne pas être connu.
30 janvier 1978. J'aime la façon dont Grégory s'occupe de moi dans mes crises. J'aime ma vie, ce qui en reste. C'est vraiment du théâtre maintenant. Peut-être mon plus grand rôle. Je m'aime. C'est dommage. Je l'ai sans doute découvert trop tard. Si je meurs, je ne pourrai plus m'asseoir chez Lip, plus me promener avec ma chère petite Sardie, plus me pavaner dans mon machin noir, mes trucs noirs, mes fringues noires. Plus jamais. Je ne verrai plus les cerisiers en fleurs qui fleurissent en avril. plus les jolis PD du Flore. Jamais.
Décembre. J'ai peint la première rangée de touches blanches sur la toile blanche, blanc sur blanc. Mon tableau s'est réduit à de la peinture blanche sur une toile blanche. Une blancheur qui avance sur la toile. Je l'appelle « Marche de la mort ».
20 janvier 1979. Comment je me sens le mieux ? En clocharde de luxe. Je suis une star sans public, je suis un mot sans emploi.
9 février 1980. Mon vernissage au musée de Pontoise. L'exposition était belle, le temps était parfait. Personne n'est venu du monde de l'art, ou presque.
10 février. Mon exposition est ratée. Je suis une ratée.
1er mai. J'ai jeté un œil au Flore et je n'ai pas voulu m'asseoir parce que je savais que Roland Barthes ne serait plus là. Vous n'êtes pas encore un fantôme, seulement une absence.
2 mai. Je m'angoisse en silence. Pas de douleur, juste un chagrin interne. Le noir de mon tableau présent domine ma vie. Je dois recracher l'histoire de ma vie en crachat noir et indélébile.
24 août. Le cancer est un nazi dans mon corps.
23 septembre. Je vais gagner. Juste en restant là et en le voulant.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Comme personne ne jouait, j'ai pris ma main et puis j'ai fait la ronde. Comme personne ne chantait, j'ai chanté tout ce que je sais. À la ronde, comme personne ne m'aimait, je me suis dit, mais je t'aime, mon ombre. Comme personne ne mourait, je me suis tué moi-même dans l'ombre. Comme personne ne venait, j'ai porté un chrysanthème sur ma tombe. Comme personne ne m'aimait, je me suis dit, mais je t'aime, mon ombre. Comme personne ne mourait, je me suis tuée moi-même dans l'ombre. Comme personne ne venait, j'ai porté un chrysanthème sur ma tombe.
Quittons Paris pour une autre capitale où se déchaînent les passions et évoquons un autre artiste dont vous appréciez la verve, le dramaturge autrichien Thomas Bernhard.
Quand je marche dans Vienne et que je rencontre des collègues écrivains, ils détournent toujours le regard. Je me balade gentiment et à 150 mètres devant moi, j'en vois déjà un qui se précipite de façon totalement absurde dans un bureau de tabac alors qu'il ne fume pas. Tout ça pour échapper à ma personne. C'est quand même dommage, non ? On vit avec des êtres humains, on aimerait bien leur tomber dans les bras tellement ils sont gentils, mais sans arrêt, vous évite. On est soi-même l'origine du malheur, c'est bien connu. Je suis seul.
Parmi vos livres de chevet, voici « Maîtres anciens », une comédie publiée en 1985. Le narrateur se rend à un rendez-vous que lui a donné son meilleur ami, le musicologue Reger, dans son lieu fétiche, la salle Bordone et du musée d'art ancien à Vienne. Arrivé en avance, il observe son ami à son insu et se remémore une conversation qu'ils ont eue ensemble. Pour l'auteur, c'est l'occasion de régler ses comptes avec la société autrichienne. En fait, depuis mon enfance, je n'ai rien détesté davantage que les musées, a-t-il dit. Je suis par nature un détestateur du musée. Mais c'est sans doute pour cette raison, justement, que je viens ici. Depuis plus de 30 ans, je m'offre cette absurdité. En fait, la salle Bordone est ma chambre de lecture. J'y ai déjà lu des centaines de livres, mais cela ne veut pas dire que je les ai lus jusqu'au bout. De ma vie, je n'ai jamais lu un livre jusqu'au bout. Ma façon de lire, voyez-vous, est celle d'un feuilleteur supérieurement doué, c'est-à-dire d'un homme qui préfère feuilleter plutôt que lire. Après tout, mieux vaut lire 12 lignes d'un livre avec la plus grande intensité que de lire tout le livre comme le lecteur ordinaire, qui à la fin connaît aussi peu le livre qu'il a lu que le passager d'avion, le paysage qu'il survole. Il n'aperçoit même pas les contours. C'est ainsi que les gens lisent aujourd'hui, à la hâte. Ils lisent tout et ne connaissent rien.
Chaque année, par centaines de milliers, sortent du ventre de l'État des enfants de l'État. Voilà la vérité. Où que nous regardions, nous ne voyons que des enfants de l'État, des élèves de l'État, des travailleurs de l'État, des fonctionnaires de l'État, des vieillards de l'État, des morts de l'État. Voilà la vérité. Il n'y a plus d'hommes naturels. Quand nous voyons les hommes, nous ne voyons que des hommes étatisés, c'est-à-dire des hommes contre nature, qui ont succombé à la stupidité de l'État. L'humanité n'est plus qu'une inhumanité, me dis-je. Lorsque nous voyons les millions d'hommes étatisés entassés dans les grandes villes, nous sommes pris de nausées.
Tout comme le soi-disant homme libre est une utopie, le soi-disant artiste libre a toujours été une utopie, une folie. C'est ce que dit souvent Reger. Les artistes sont les plus hypocrites, beaucoup plus hypocrites que les politiciens. Tout de même, cet art se tourne toujours vers le tout-puissant et vers les puissants et se détourne du monde. J'entends de nouveau Reger le dire. C'est là sa bassesse. Cet art est pitoyable, rien d'autre. Il n'y a que fausseté et mensonge dans les livres que nous ont légués les soi-disant grands écrivains. Rien que fausseté et mensonge dans les tableaux accrochés à ces murs. L'œuvre d'art la plus grande et la plus remarquable finit tout de même par nous peser dans la tête comme un morceau énorme de mensonge et de vulgarité.
Nombre d'artistes à certaines époques, quand c'est la mode, sont tout bonnement gonflés jusqu'à une monstruosité sidérante. Alors soudain, quelqu'un d'incorruptible pique dans cette monstruosité sidérante et celle-ci éclate et n'est plus rien. Tout aussi soudainement, a-t-il dit. Velázquez, Rembrandt, Giorgione, Bach, Handel, Mozart, Goethe, tout comme Pascal, Voltaire. Rien que ce genre de monstruosité gonflée. L'admiration rend aveugle, a dit Reger. Elle rend l'admirateur stupide. La plupart des gens, une fois qu'ils sont entrés en admiration, ne sortent plus de l'admiration et en deviennent stupides. Il n'y a ici rien à admirer. Rien, 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 a dit Reger. Parce que le respect et l'estime sont trop difficiles pour les gens, ils admirent et cela leur coûte moins cher. L'état d'admiration est un état de faiblesse de l'esprit. Vienne est un concept culturel, a dit Reger, même si depuis longtemps, il n'y a presque plus de culture à Vienne. Et bientôt, il n'y aura effectivement plus aucune culture dans cette ville, a-t-il dit. Ces gouvernements qui deviennent de plus en plus bêtes, que nous avons ici en Autriche, à la longue, ils s'arrangeront bien pour qu'il n'y ait bientôt plus la moindre culture en Autriche. L'atmosphère ici en Autriche devient de plus en plus ennemie de la culture, et tout porte à croire que d'ici peu de temps, l'Autriche sera un pays complètement dépourvu de culture. Mais cette fin déprimante, je ne la vivrai pas. Vous peut-être, a dit Reger. Mais moi non. Je suis déjà si vieux que je ne vivrai pas la décadence définitive. La lumière de la culture s'éteint en Autriche, je vous le dis. D'ici peu de temps, la stupidité qui règne déjà depuis si longtemps dans ce pays éteindra la lumière de la culture. Alors il fera nuit en Autriche.
Écoutons désormais un autre sceptique, un peu à la façon des péripatéticiens antiques, un homme qui pense serait-il d'abord un homme qui marche. Tel pourrait être le credo d'un écrivain actuel, infatigable arpenteur du monde, que vous admirez particulièrement, Judith Magre. Il s'agit d'un de mes amis d'enfance, Sylvain Tesson.
Le chemin noir, c'est d'abord la représentation graphique de ces chemins les plus ténus, les plus minuscules, à peine plus épais qu'un cheveu que l'on trouve sur la carte. Et d'ailleurs, l'Institut géographique, dans le cartouche de légende, indique que le chemin noir, le petit chemin qui parfois est un simple pointillé, est un chemin à la praticabilité aléatoire. On dirait presque une définition de l'existence.
Son dernier livre sur les chemins noirs vous a bouleversé. Après une grave chute qui aurait pu le laisser handicapé, l'homme se relève et marche. Avec ses cartes géographiques pour tout trésor, il traverse la France en diagonale, du sud au nord. Voici les réflexions que lui inspire sa transhumance en terre rurale, comme un éloge à la fuite. Je l'embrasse et je vous cède la parole, chère Judith.
Un rêve m'obsédait. J'imaginais la naissance d'un mouvement baptisé « Confrérie des chemins noirs ». Non content de tracer un réseau de traverses, les chemins noirs pouvaient aussi définir les chemins mentaux que nous emprunterions pour nous soustraire à l'époque. Dessinés sur la carte et serpentant au sol, ils se prolongeraient ainsi en nous-mêmes, composeraient une cartographie mentale de l'esquive. Il ne s'agirait pas de mépriser le monde, ni de manifester l'outrecuidance de le changer, non. Il suffirait de ne rien avoir de commun avec lui. Orchestrer le repli me semblait une urgence. Les règles de cette dissimulation existentielle se réduisaient à de menus impératifs. Ne pas tressaillir au soubresaut de l'actualité, réserver ses colères, choisir ses levées d'armes, ses goûts, ses écœurements, demeurer entre les murs de livres, les haies forestières, les tables d'amis, se souvenir des morts chéris, s'entourer des siens, prêter secours aux êtres dont on avait connu le visage et pas uniquement étudié l'existence statistique. En somme, se détourner. Mieux encore, disparaître. Dissimule ta vie, disait Épicure dans l'une de ses maximes. En l'occurrence, c'était peu réussi car on se souvenait de lui deux millénaires après sa mort. Il avait donné là une devise pour les chemins noirs. Nous serions de grandes troupes sur ces contre-allées, car nous étions nombreux à développer une allergie aux illusions virtuelles. Les sommations de l'époque nous fatiguaient.
Enjoy, take care, be connected.
Nous étions dégoûtés du clignotement des villes. Si nous écrasions à coups de talons les écrans livides de nos vies high-tech, s'ouvrirait un chemin noir, une lueur de tunnel à travers le dispositif. Tout cela ne faisait pas un programme politique. C'était un carton d'invitation à ficher le camp. Vivre me semblait le synonyme de s'échapper. Napoléon avait dit au général de Caulaincourt, dans le traîneau qui les ramenait à Paris après le passage de la Bérézina, « Il y a deux sortes d'hommes, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. » Du temps où je m'étais passionnément intéressé à l'Empire, jusqu'à prendre mon bain coiffé d'un bicorne, j'avais trouvé cette phrase définitive. Aujourd'hui, tordant les chaussettes sur un banc de vase du Var, je pensais que l'empereur avait oublié une troisième colonne, les hommes qui fuient. Sire, lui aurais-je dit si je l'avais connu, fuir, c'est commander. C'est au moins commander au destin de n'avoir aucune prise sur vous.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Je suis venu dans le café au bord du fleuve. Un peu vieilli, un peu blasé. J'ai mal dormi dans un hôtel aux chambres neuves. Je n'ai pas pu me reposer. Il y a des couples et des enfants qui marchent ensemble. Dans la paix de l'après-midi, Il y a même des jeunes filles qui te ressemblent. Dans les premiers pas de leur vie, je te revois dans la lumière, dans les caresses du soleil. Tu m'as donné la vie entière et ses merveilles. Je suis venu dans le jardin où tu reposes, environné par le silence. Le soir tombait et le ciel se couvrait de roses, et j'ai eu mal de ton absence. Je sens ta peau contre la mienne. Je m'en souviens, et je voudrais que tout revienne. Ce serait bien. En attendant le train de nuit au milieu du silence, quand le jour s'est évanoui, j'ai senti ta présence. Toutes les nuits, seul dans mon rêve, je sens ta peau et ta chaleur au moment où la nuit s'achève. C'est moi qui meurs.
Michel Houellebecq, écrire en alexandrin aujourd'hui sur un monde qui semble en grande partie vous être assez insupportable, est-ce une manière de rendre le monde plus supportable ou bien de vous en abstraire?
Je pense que je suis assez facilement hypnotisé par les formes. C'est un peu un équivalent de ce que peut être l'écriture automatique, finalement, bizarrement. C'est-à-dire que je sais pas exactement ce que je veux dire au départ, et quand j'ai réussi à comprendre ce qu'un poème voulait dire, il m'intéresse moins. Mais il y a un phénomène d'hypnotisation par la forme qui se produit chez moi. Et j'ai besoin d'une forme.
Nous voici à la fin de notre parcours littéraire, chère Judith Magre. En conclusion, citons l'écrivain que vous considérez comme le plus génial de sa génération, tout simplement. Il s'agit de Michel Houellebecq. Revenons à ses premières œuvres, bien avant les scandales médiatiques. En 1997, l'écrivain publie un recueil de poèmes dont le titre résonne comme une prière, « La poursuite du bonheur ». En quelques pages, l'auteur révèle une autre facette inattendue de sa plume. Loin du romancier provocateur, découvrons son talent poétique, à travers le regard lucide et compatissant qu'il porte sur la nature humaine.
Il y aura des journées et des temps difficiles, et des nuits de souffrance qui semblent insurmontables, où l'on pleure bêtement les deux bras sur la table, où la vie suspendue ne tient plus qu'à un fil. Mon amour, je te sens qui marche dans la ville. Il y aura des lettres écrites et déchirées, des occasions perdues, des amis fatigués, des voyages inutiles, des déplacements vides, des heures sans bouger sous un soleil torride. Il y aura la peur qui me suit sans parler. Il y aura la mort, tu le sais mon amour. Il y aura le malheur et les tout derniers jours. On n'oublie jamais rien, les morts et les visages flottent joyeusement jusqu'au dernier rivage. Il y aura le regret, puis un sommeil très lourd.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia, avec à la technique Manuel Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leïla Kourousselikois, Perrine Maninche, Fanny Leroy, Claire Tesser et beaucoup par vous aussi, Judith Magre. Merci infiniment.
Merci Guillaume.
Et j'espère à une prochaine.
Oh, j'espère aussi.
À la semaine prochaine. Au revoir.